Au bout de la plume, l'émission littéraire de Radio Alpes-Mancelles. Au bout de la plume, pour partager ensemble le plaisir d'écrire, la passion pour la lecture et faire partager vos talents d'écriture. Au bout de la plume, un rendez-vous hebdomadaire sur votre radio, à Radio Alpes-Mancelles 106.3 FM.
Stéphane Giraud a écrit une autobiographie de l'autre côté de la vie. Pour en parler, nous le recevons. Alors Stéphane Giraud, bonjour.
Bonjour madame.
Pour commencer, présentez-vous, parlez-nous déjà un petit peu de votre parcours, notamment votre parcours professionnel.
Alors, je suis né à Alençon, j'y ai toujours vécu, j'ai grandi au Champerrier, dont je fais référence dans mon livre qui est l'ancienne décharge municipale à ciel ouvert de la ville d'Alençon. J'ai commencé un apprentissage de coiffeur à Caen, à Victor Lépine, je suis revenu à Alençon, j'y ai exercé chez 3 ou 4 employeurs, l'armée entre-temps. Ensuite, j'ai repris la coiffure à Mortagne, au Pain d'Or. Je me suis lassé de cette activité qui était très contraignante en horaire et avec des petits salaires. Donc, je suis rentré dans le milieu de l'assurance. Ça m'a bien plu. Rapidement, j'ai vu que c'était pas fait pour moi. Donc, j'ai à nouveau changé. Je suis rentré dans une mutuelle qui aujourd'hui est le groupe Harmonie. Mais notre directrice était une personne qui avait la vision des choses à grande échelle et elle avait déjà commencé à initier les fusions. J'y ai exercé 2 métiers dans cette mutuelle qui était la CMCO. D'abord tout simplement commercial en entreprise et puis ensuite responsable commercial. J'ai quitté parce que dans le truchement des fusions, mon poste était supprimé et ça me convenait très bien. J'avais fait le tour, j'étais fatigué, j'ai pris une année sabbatique, je voulais toucher au domaine du social. Je suis donc rentré à la mission locale d'Alençon. Ça m'a bien plu et puis c'était pas fait pour moi au final. Moi je voulais des résultats probants très vite, très rapides et dans le social il faut surtout sur du moyen et long terme. Donc ça ne me convenait toujours pas et puis j'ai toujours eu la bougeotte en fait. Je m'étais dit je ne veux plus rendre de compte à qui que ce soit donc je m'installe. J'ai pris un petit bar qui vivoter gentiment hein, et que j'ai transformé en bar-restaurant. Voilà, jusqu'au jour de mon incident.
Alors en effet, vous êtes mis à l'écriture et notamment l'écriture autobiographique, mais d'où l'idée d'écrire sur votre vie vous est venue ?
Alors l'idée, pour ceux qui ont déjà lu mon livre ou qui le liront, ils comprendront pourquoi. En fait, lors de mon premier voyage, hein, les rencontres inattendues, les rencontres inoubliables, j'en suis revenu avec ce que j'ai pris pour un doute au départ, mais qui n'en était pas un. Je refusais de regarder du bon côté. Je regardais toujours de l'autre côté, en fait. C'est par excès de fainéantise ou de bien voir la vérité, mais en fait, voilà, on m'avait laissé un choix. Tu témoignes ou tu ne témoignes pas. Si tu témoignes, c'est très bien, on t'aimera autant. Si tu ne témoignes pas, on t'aimera tout autant.
Et concrètement, qu'est-ce qui vous a poussé à partager ?
Lorsque j'ai pris conscience que l'on m'avait fait un cadeau, mais gigantesque, par ce qui m'est arrivé, je me suis dit non, ça il faut le partager, parce que pour les personnes qui se disent athées, les vrais athées, il n'y en a pas. Parce qu'au dernier moment, il y aura toujours un doute ou une petite volonté de vouloir croire à autre chose. Pour ceux qui croient, mais moyennement, ou qui ont toujours des doutes ou des peurs, pour ceux d'autres confessions, parce qu'à la limite, ça concerne, ce qui m'est arrivé, ça concerne toutes les confessions, tout le monde. Donc je me suis dit non, il faut le partager, il faut le faire savoir.
Et alors vous l'avez appelé ce livre de l'autre côté, la vie ? Pourquoi ce titre ?
Parce qu'en fait, il m'est venu de très très vite. Hein. En fait, j'étais au centre de rééducation de Cricbeuf après ces 17 jours de CHU. Je me suis dit, mais j'arrêtais pas de me dire, tu as fait un voyage de l'autre côté, je suis allé de l'autre côté. Et de l'autre côté, il y a la vie. Même si c'était en mon fort intérieur ce à quoi je croyais, comme tout le monde, je me posais plein de questions avec des tas de doutes. Hein, et je me suis dit, de l'autre côté, la vie. Et le titre est arrivé très vite, bien avant que j'écrive.
Et quels sont les sujets abordés dans ce livre ?
Alors, je commence effectivement par l'Italie. Alors là, bien avant ma naissance, mais en fait, quand je repense à ce qui m'est arrivé et pourquoi il fallait que je sois là pour que ça m'arrive, eh ben, il fallait que mon grand-père, qui aurait dû mourir, je sais pas, peut-être 10 fois, 15 fois, 20 fois, devant des faux pelotons d'exécution, même toute ma famille, hein, lorsqu'ils étaient parqués dans des camps gérés par les Allemands, bon, bah, mon grand-père était un dur à cuire et il ne s'en laissait pas compter. Eh ben voilà, ils ont tout traversé et je devais arriver.
Oui, donc ça, c'est dans le premier chapitre de votre livre. On va revenir d'abord à la préface de ce livre. Oui. Vous abordez justement les non-croyants, puis les croyants chrétiens, c'est-à-dire catholiques, protestants et orthodoxes, et enfin les croyants d'autres religions. Pourquoi justement ?
Alors, pourquoi d'abord les non-croyants ? Parce qu'en fait, je me suis mis à leur place. Et puis j'ai repensé à ce que j'étais moi-même lorsque j'étais ado, essentiellement ado, où on commence à se dire, ouais, oh, la religion, tout ce qu'on nous a dit, patati et patata, et puis je m'en étais détourné, alors que je viens d'une famille extrêmement pieuse, hein, à l'origine, la messe tous les dimanches et tout, et ce qui est très bien, et pour les autres aussi, hein, y a pas que les chrétiens cathos, hein. Et bien, je me suis dit, qu'est-ce que ça doit être difficile quand même de ne pas croire et se demander de temps en temps, je vais finir où ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? S'il n'y a rien, comment arrive le néant ? Il y a des tas d'interrogations, et je me suis dit, bah, autant déjà s'adresser à ces personnes-là, leur faire plaisir. Après, on me croit, on me croit pas. Je demande pas spécialement à être cru, mais pour ceux qui, à la limite, vont le souhaiter, bah, tant mieux pour eux. Et puis, c'est un livre qui s'adresse aux non-croyants, parce que même si aujourd'hui, la personne l'a acheté et se dit, bah, je reste dans mon doute et c'est très bien, dans un an, 10 ans, 15 ans, elle va peut-être revenir dessus en se disant j'ai évolué, tiens, j'ai envie de remettre le nez dedans, parce qu'en fait c'est un livre, je m'en suis aperçu, je l'ai lu 11 fois, hein. Je me suis auto-corrigé avant de le faire, à chaque fois je me suis dit mais c'est un livre qu'on peut ouvrir à n'importe quel moment, on peut y revenir sans arrêt pour y puiser quelque chose. Ensuite, quels que soient les croyants, parce qu'à l'origine et depuis toujours, nous croyons en le même Dieu, exactement le même Dieu, voilà, il y a des différences chez chacun, tant mieux, puis c'est comme ça. Et ensuite, eh bien ma foi, les chrétiens, je m'adresse à eux, parce que j'ai fait partie de ces gens-là. En fait, on se pose des questions. Même en étant croyant et pratiquant, je faisais toujours partie de ceux qui ne croyaient pas aveuglément. Moi, je me suis toujours dit, on ne me fera pas prendre des vessies pour des lanternes. Ça, c'est un terme général, hein, c'est au générique. Mais je me posais toujours plein de questions. Bah, je peux vous dire que le doute a été vite levé, parce qu'en fait, contre toute attente, alors que bien des gens mériteraient de vivre à ma place ce que j'ai vécu, maintenant je sais pourquoi moi, je suis persuadé que je ne suis pas le seul en France ou dans le monde entier, on doit être nombreux. Après, il faut oser franchir le pas. Parce que franchir le pas, vous savez, c'est quand même se confronter à la moquerie, à la raillerie. C'est toujours facile de juger, mais on juge rarement sur des faits, et le jugement est mauvais dans ces cas-là. Il est toujours blessant, vexant. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je me mets par-dessus l'épaule, donc je me suis dit, en dernier, ceux qui croient, hein, et voilà, ça pourra peut-être raffermir en eux leur foi, développer leur foi, ou tout simplement, ils trouveront des réponses à leurs questions.
Et concrètement, le but justement de cette préface ?
Alors, cette préface, je voulais que tout le monde comprenne qu'il s'adresse à tout un chacun, ce livre, à toute la population. Parce qu'en fait, dans ce message que j'ai reçu et que j'ai refusé de déchiffrer, c'était « si tu témoignes pour tout le monde ».
Et dans ce premier chapitre, vous parlez d'ailleurs de la vie de vos grands-parents maternels, si je ne me trompe,
oui.
Et surtout de votre grand-père. Pourquoi justement vous parlez de votre famille ?
Parce qu'en fait, j'ai toujours adoré mes grands-parents et au moins mon grand-père aurait dû mourir à plusieurs reprises, ne serait-ce que lorsque je parle de ce passage où il y a eu un fusillé, je parle de Fulvio, en fait ils en ont fusillé plusieurs dans cette ex-ferme transformée en entreprise de maçonnerie, lui il était juste à côté. Alors je n'ai pas tous les temps aboutissants et tous les détails, mon grand-père m'en parlait avec suffisamment de détails, mais je me suis dit je vais concentrer mon écrit sur une personne uniquement, et c'est le seul moment où je vais romancer. Parce que je voulais que tout un chacun ressente bien la détresse. Parce que ça s'est passé partout en Italie, hein. Ceux qui refusaient étaient fusillés. Hein. Et comme le mot se passait très vite, dans toutes les bourgades, tout le monde après s'est enrôlé ou fuyé, comme l'a fait mon grand-père avec son patron. Donc, pourquoi n'est-il pas mort ? Tout simplement parce que je devais arriver pour vivre ce que j'ai vécu. En tout cas, c'est mon intime conviction.
Et dans votre livre, vous parlez surtout de votre expérience de mort imminente. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus ? Quelle est votre expérience ?
Le dernier souvenir que j'ai de l'hôpital d'Alençon, j'y suis resté quelques heures alors que la valve et l'aorte venaient de s'ouvrir. Hein. Moi, je ne savais rien. Personne ne savait rien d'ailleurs. Hein. Jusqu'au moment où c'est le CHU qui a dit à la lecture, c'est extrêmement grave. De toute façon, il est mort. Ben non, il est pas mort. Mais si, il est mort. Ben non. Bon, allez, faites-le venir. Et comme on m'a dit, s'attendait à recevoir un cadavre, puisqu'on m'a reçu à Caen avec un bracelet de morgue. Je l'ai eu pendant plusieurs jours avec un bracelet du vivant, où il m'avait appelé Monsieur Trèfle, comme j'étais chanceux. Et on m'a mis donc dans un coma à Alençon. Je me rappelle bien lorsqu'ils ont fait l'injection, en même temps que la pose de la sonde. Et puis, là, ça a été la fermeture des écoutilles, hein, jusqu'au moment où j'ouvre les yeux. Mais avant d'ouvrir les yeux, j'ai ce souvenir de ce déplacement dans un milieu qui n'est pas du tout le nôtre. Et alors, il faut vraiment lire le livre pour avoir les meilleurs détails possibles, parce que c'est compliqué, c'est complexe. J'ai passé des heures à aller rechercher des adjectifs, les bons mots. Il n'est pas facile de parler d'un système, enfin, d'un milieu qui n'est pas terrestre, c'est-à-dire l'univers invisible. Hein, on dit bien Dieu, créateur d'univers visible, invisible. Le visible, c'est nous sur Terre. L'invisible, eh bien, si vous voulez, là, on n'a pas vraiment les bons termes pour tout expliquer correctement. J'espère que je me suis bien acquitté de cette tâche-là, mais pendant que je progressais vers cet univers, alors en fait j'y progressais mais les distances n'existent pas, j'ai vu arriver devant moi trois images qui ont grossi, arriver devant moi, ou est-ce qu'elles sont apparues de tout petit, sans bouger et puis grandies, je sais pas. Mais toujours est-il que j'avais à ma gauche maman, devant moi papa, à ma droite mon beau-père, ils avaient tous en moyenne la trentaine, De toute façon, tout ce que j'ai vu, tous ceux que j'ai vus, n'ont jamais dépassé cette trentaine. C'était le grand maximum. Et même mon beau-père, que j'ai reconnu, que je n'ai jamais vu, sauf une photo de lui avant son décès, il devait avoir dans les 72, 13, 14 ans. Hein. Et j'ai reconnu les vêtements de tout le monde, et effectivement, chacun avait bien porté ces vêtements-là auparavant. J'étais pas surpris, en fait, c'était une ambiance calme, chaude, doucereuse. Il y avait un trop-plein d'amour qui s'en dégageait, mais qui ne m'étonnait pas non plus, tellement c'était bon, tellement c'était bien. Je baignais dans cette atmosphère, sans couleur, alors qu'il y avait plein de contrastes. Je voyais les couleurs. En plus, je voyais les couleurs alors qu'il n'y a pas de couleurs. Donc, on m'a projeté des informations, tout simplement, pour que je comprenne bien qui était devant moi. Et je me rappelle que je comprenais, en même temps que je les voyais, qu'on me projetait des images alors qu'ils étaient là. Mais que si on ne m'avait pas projeté d'images, je ne les voyais pas. Je ne les voyais pas parce que je n'avais pas encore franchi le pas. Je savais où j'étais, par contre. J'en avais pleinement conscience et j'avais pas peur. Et comme je dis dans mon livre, alors c'est la seule chose qui m'a effrayé. Lorsque je suis revenu à moi, je me suis dit, mon Dieu, j'avais totalement oublié que j'avais une épouse et 5 enfants. Complètement. Je n'y pensais plus. Alors, est-ce que c'est normal ou pas? J'en sais rien du tout. Lorsque je repartirai, c'est quelque chose à quoi j'aspire aujourd'hui sans crainte. Peut-être que oui, on arrive tout nu, quoi. On ne se rappelle plus de rien ou peut-être après. Toujours est-il que mes parents m'ont dit, ça a été très bref l'échange. J'ai perçu 3 voix distinctes. J'ai bien perçu leurs 3 voix, dont celle de mon beau-père, je n'ai jamais entendu parler de ma vie. Hein. Mais il n'y en avait qu'une seule. Ça, je ne peux pas vous l'expliquer, c'est indicible. C'est ainsi. Il n'est pas temps pour toi, m'ont-ils dit. Tu dois retourner auprès des tiens et parmi les tiens. Alors ça a résonné en moi très longtemps. En fait, avec les tiens, ta famille, et parmi les tiens, ceux du monde auquel t'appartiens, hein, la planète Terre, voilà. Mais je me dis, mais à la limite, pourquoi référence à toutes ces personnes? Et je savais qu'en moi, il y avait un message, quelque chose de non dit, mais que je devais trouver pour l'accepter. Peut-être que me le donner comme ça, verbalement, n'aurait pas suffi. Et puis, ils m'ont dit, tu vas repartir. Et là, je me suis senti repartir et réintégrer mon corps. Et je me suis même senti réintégrer mon corps. C'est quelque chose d'impressionnant. Voilà. Et là, j'ouvre les yeux et je me retrouve dans un milieu qui ne ressemble plus aux urgences d'Alençon. J'ai des tuyaux qui sortent de partout de mon corps. Je peux vous dire qu'il y en avait plusieurs, je les ai bien vus. J'étais enfermé dans un drôle de matelas, des machines tout autour de moi, ça bipait de partout. Et là, je me suis dit, est-ce que c'est ça la mort? J'ai eu très peur. C'est violent. Hein. Voilà.
Et c'est ce que vous expliquez hein, dans ce livre.
Turning tables.
Comment vous l'avez écrit, ce livre ?
Il m'a fallu à peu près 2 ans pour tout accepter. Bon, déjà, honnêtement, j'ai plongé psychologiquement. Hein. On n'en sort pas indemne parce que tout allait bien. J'étais dans la force de l'âge. J'ai toujours été hyperactif, suractif. Rien ne m'a batté, quoi. Si, les lumbagos, c'est tout. Et en fait, il a fallu que je me remette moralement, psychologiquement de ça parce que je me dis, pourquoi moi ? Ce qui m'est arrivé n'est pas rare. Mais dans mon cas, moi, c'est rare. Et les chirurgiens m'ont toujours dit, vous êtes le premier survivant à cela. Mais je me dis, mais pourquoi moi ? Pourquoi ma pomme ? Pourquoi ça m'est arrivé à moi ? Ça m'est arrivé à moi. Si nos auditeurs lisent le livre, ils le découvriront, mais parce que il fallait quelqu'un qui ne s'en laisse jamais compter, quelqu'un qui ne... Je ne baisse jamais les bras. À partir du moment où j'ai décidé quelque chose, toujours dans le bon côté, hein, de la forme et tout ce qu'on veut, après je n'en démords plus, et je vais jusqu'au bout des choses. Ce qui m'a valu aussi une belle réussite professionnelle, parce que j'ai toujours tenu compte de toutes les bonnes choses que l'on me disait, et j'ai toujours essayé de faire le meilleur, ou de donner le meilleur. Voilà.
Donc si j'ai bien compris, 2 ans hein, pour écrire ce livre.
Alors, 2 ans pour admettre qu'il fallait écrire, parce qu'après, à partir du moment où j'étais prêt, je me suis dit, mais ce livre-là, s'il se retourne contre toi, tu engages ta famille. Et oui, ça aussi, ça peut être lourd de conséquences. Mais je me suis dit, non, on ne m'a pas offert ça, on ne m'a pas permis d'aller de l'autre côté pour baisser les bras. Vous savez, il y a une chose qui me martèle tous les soirs, parce que j'y repense en permanence. Il n'y a pas une soirée, il n'y a pas une nuit, il n'y a pas un moment de la journée où je n'y repense pas, mais toujours positivement. Juste avant qu'ils m'ont dit « tu vas repartir », ils m'ont dit « mes parents, mes 3 parents, un petit pas de plus et tu ne pouvais plus repartir ». En fait, où j'étais, il n'y a pas de distance. Il n'y a aucune notion, en fait. On n'a pas froid, on n'a pas faim, on n'a pas chaud. Un petit pas de plus, c'est la seule chose que je pouvais encore comprendre, puisque je n'avais pas franchi le seuil de leur univers, l'invisible. Donc, ça me permettait de savoir que j'étais à un pas de ne plus faire marche arrière. C'est-à-dire que je partais définitivement. Et je suis persuadé que je laissais un corps, c'est-à-dire cliniquement mort. J'étais maintenu en vie. Et voilà, j'aurais rejoint mes parents. Mais non, c'était pas mon moment. Mon moment, c'était d'être ici et de comprendre ce qui m'a été laissé comme message. Ça, c'est le premier. Il y en a eu un deuxième dans ma chambre du CHU. Là, il faut vraiment le découvrir en lisant le livre. Là, il est extraordinaire, il est merveilleux, mais c'est pas le plus beau. C'est le dernier, le 1er février.
Vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors, très brièvement, l'opération est une réussite. Il y a eu certainement des difficultés, puisque je l'ai su verbalement, mais il n'y a rien sur les rapports écrits. Puis c'est normal, à la limite. Au réveil, puisqu'on m'a endormi pendant 23 heures en attendant que mon corps meure, c'est ce que m'a dit le chirurgien, elle m'a dit, de toute façon, vous auriez été, au pire, vous n'étiez qu'un légume, dont le corps, en souffrance, serait mort dans les instants. Puisqu'il n'y avait plus de calmant, c'est un arrêt du cœur. Au bout de 23 heures, avec l'équipe, on s'est dit, on le réveille. Et là, je me suis réveillé avec une douleur fulgurante à droite. Bon, ils ont tout de suite compris. Une thrombose s'était installée sous le genou, opération. Mais là, le jeune chirurgien, un surdoué, qui, quelques temps après, a quitté le CHU pour aller juste à côté, m'a dit, il parlait à côté, et moi j'ai tout entendu. La jambe, c'est fini. En 23 heures, la thrombose, elle s'est pas installée de maintenant, c'est terminé. Et lorsque vous avez un cueil haut de sang, c'est la règle des 6 heures. Au bout de 6 heures, tous les tissus non vascularisés meurent, et c'est l'amputation. Et je suis remonté avec ma jambe. Ensuite, il y a eu ce 1er février, il y a eu cette visite que j'ai eue dans ma chambre. Hein. Ça aussi, il a fallu le digérer et l'admettre. Parce qu'on se dit, mais est-ce que j'ai rêvé ? Non, j'ai pas rêvé, parce que pendant que ça s'est déroulé, j'ai tout fait. Parce que, vous savez, quand on pense dormir, il faut se blesser. Et je me suis blessé volontairement. Hein, je me suis mutilé la bouche. Le sang et la douleur, si j'avais été réveillé, je me serais réveillé. Donc je ne dormais pas. Mais ce 1er février, alors que je commençais à remarcher à peine, j'en avais ras-le-bol des toilettes au lit, parce que c'est dégradant. L'infirmière me dit, Monsieur Giraud, je vais venir avec vous à la douche, je vais vous laver. Ah non, là, je pouvais pas. Enfin, un peu d'eau sur mon corps. Vous savez, quand on n'a pas été lavé à grande eau, on en rêve de ça. On rêve des parfums, du gel douche. À la limite, lorsqu'on me donnait une pomme en dessert, le parfum de la pomme, c'était merveilleux. Et je me suis dit, non, je veux pas qu'on me gâche. Je vais me retrouver nu, quelqu'un qui va me laver, c'est pas possible. Et j'aurais dû dire oui, au lieu de dire non. Parce que là, pendant la douche, là, une thrombose est arrivée. Un caillou s'est détaché, décollé de l'aorte descendante et est venu bloquer assez haut dans la jambe gauche, au-dessus du genou. Et j'ai reconnu les douleurs. J'ai compris tout de suite que c'était grave. Et c'est ce que l'on m'a dit lorsque je suis retourné. Alors là, il faut lire le passage aussi du retour à la chambre. C'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Maintenant, pas pendant. Hein. Et on m'avait dit, un jeune interne. Monsieur, vous connaissez la règle des 6 heures ? Oui. Vous êtes au CHU, vous serez opéré dans très peu de temps. En fait, non. Lorsque j'étais opéré, c'était tout simplement pour une amputation. On avait largement dépassé les 6 heures. Hein, et j'étais au CHU. Et il n'y avait pas de place pour moi. Et le moment croustillant où une personne qui a défendu bec et ongles ma position, je ne saurais jamais qui est cette femme. J'aimerais la rencontrer. J'en suis encore très ému de cette personne qui a pris fait et cause pour moi. Elle m'a descendu contre toute attente alors qu'on lui a dit non. On venait de lui dire non, il n'entre pas au bloc. Elle m'a descendu avec une aide-soignante. Elle m'a laissé à la porte du bloc. Et là, ça a été la plus belle des rencontres. Elle est rentrée, je vous dire, sans se laver les bras, sans rien, sans tenue. Hein. Ça ne se fait pas. J'ai entendu toutes les insultes qu'elle a ramassées. Parce que j'étais à la porte, hein. J'étais derrière. Et je vous tairai les gros mots. Elle s'est battue pour moi. Et là, à ce moment-là, le son a décliné très vite. Et tel que ça s'est produit dans ma chambre, quelques jours auparavant. Et j'ai quitté mon corps. J'y étais rattaché, je le sentais très bien. Je le percevais, je le voyais pas. Mais j'étais pour au moins 50% déjà de l'autre côté, encore. Et j'ai reçu comme une gifle, quelque chose de bon. Mais quand je parle d'amour, lorsqu'on est de l'autre côté, c'est pas de l'amour terrestre, c'est un amour pareil que l'on ne peut pas exprimer, expliquer, c'est indicible, tout simplement. Mais je n'étais toujours pas étonné d'avoir cette personne à côté de moi. Et elle m'a cajolé, elle m'a dorloté. Alors là, c'est incroyable. Toujours rattaché à mon corps, je savais précisément à cet instant où était la thrombose, mais je la ressentais plus, je n'avais pas de douleur, parce qu'on m'avait donné très peu de morphine en plus. Hein. Donc je peux vous dire que jusqu'en bas, j'ai dégusté. Hein. Et en fait, oui, je savais que cette femme qui était à côté de moi, c'était Marie, tout simplement. Et lorsque, au moment où cette femme qui m'a descendu a ouvert la porte du bloc, j'ai réintégré mon corps dans la milliardième de seconde. Voilà. Et son premier geste, c'était de venir vers moi avec un grand sourire. Elle m'a caressé les joues, elle m'a dit « Monsieur Giraud, pour vous, c'est bon. Maintenant, vous rentrez. » Elle est partie. Je ne sais pas qui est cette femme.
Alors oui, on aura bien compris toute cette histoire. Pourquoi il faut lire ce livre, justement ?
Pour l'espoir. Dans la vie, en fait, ce livre, il est là pour dire aux gens, quels que soient d'ailleurs les faits que j'explique me concernant mon grand-père, ma grand-mère et tout ce qui s'est passé autour, il ne faut jamais perdre espoir. Il faut conserver cette petite flamme. Parce qu'à un moment donné, cette petite flamme fait que, quelle que soit la douleur que l'on ressentira dans la vie, parce qu'on aura traversé une mauvaise passe, des trahisons, une mauvaise séparation, la violence, enfin, il y a plein de raisons pour ne pas être satisfait de la vie. Ce livre est là pour donner de l'espoir et toujours, et c'est pour ça qu'on peut le relire à n'importe quelle période de sa vie, on y trouvera toujours quelque chose qui permettra de relativiser pour soi ou d'accepter ce que l'on a traversé, qui n'était pas bon. Voilà. J'ai inclus d'ailleurs aussi un personnage, alors lui il est une fiction à l'histoire, mais en fait c'est moi qui parle. Ce personnage, voilà, je vais le taire, mais il est là pour dire aux gens, on vous dit ça, mais attention, ne prenez pas non plus tout pour argent comptant, gardez votre libre arbitre. Et puis, il apporte aussi une touche d'humour, de souplesse, de légèreté à ce livre, parce que bon, il traite quand même de sujets difficiles, de sujets lourds, il traite de la mort, c'est pas simple. Donc voilà, c'est une chef éditoriale d'une entreprise qui n'existe plus, hein, qui était France Loisirs et qui gérait un site sur internet, qui m'avait dit, voilà, elle m'avait donné des conseils, des tas de conseils, faites comme ci, faites comme ça, et puis un jour on se reverra. Mais on n'a pas eu l'occasion de se recontacter puisque l'entreprise a disparu, mais c'est une grande entreprise qui éditait beaucoup de livres. Et j'ai été confronté après aussi système de l'édition, parce que faire un livre c'est bien, mais si les gens ne peuvent pas y avoir accès, moi je demande pas ce que des millions de gens le lisent, ce serait merveilleux d'ailleurs, mais au moins que les gens puissent avoir accès à ce livre. Donc j'ai trouvé au final la seule solution qui m'était offerte, mais c'est un livre d'espoir.
Et où peut-on l'acquérir, ce livre ?
Alors, chez Amazon, tout simplement, parce qu'ils ont un outil informatique et formidable. On vous met en ligne le livre, vous apportez votre texte. Hein. Vous pouvez apporter aussi votre première de couverture, le dos et la quatrième de couverture. Moi, c'est un jeune qui, fort sympathiquement, me l'a créé. Mais sinon, ils proposent et ils ont aussi l'outil à disposition des gens pour faire aussi leur couverture. Hein. Et le livre, sous 3, 4, 5 jours est disponible, hein, le temps des contrôles, c'est normal. Et puis, un tarif très abordable, il fait 381 pages. C'est un format à peu près A5, un petit peu plus grand parce que ce sont des formats américains. Mais voilà, au moins, avec Amazon, il est disponible dans plein de pays. Et puis, tout le monde peut se le fournir. Alors, il faut vraiment mettre dans le moteur de recherche « De l'autre côté, la vie, Stéphane Giraud ». Parce qu'en fait, avec uniquement « De l'autre côté, la vie », on n'y accède pas. On n'arrive pas à la bonne page. Voilà.
Alors sinon, quels sont vos projets suite à l'écriture de ce livre ?
Alors, suite à l'écriture de ce livre et parallèlement à cette écriture, j'ai fait la connaissance de deux auteurs. Une autrice angevine, Valérie Wanard, pour qui j'ai eu le grand plaisir de découvrir sa trilogie de l'époque. Donc elle m'a envoyé des paragraphes, je les lisais, des fois je lui retournais avec des corrections, avec des suggestions. J'ai commencé à prendre plaisir et goût à l'écriture. En même temps, j'ai découvert Philippe Meisberger, qui est un auteur qui est dans l'Est de la France. Philippe a déjà plusieurs livres à son actif, et pour le projet Bélénos, enfin c'est un gros projet d'ailleurs ce livre, pendant plusieurs mois, il m'a envoyé des paragraphes. Je découvrais l'histoire qui est une pure fiction, mais qui n'est pas loin de la réalité d'ailleurs. Et pareil, je faisais comme pour Valérie Wannard, je lui ai retourné ce qu'il m'avait envoyé avec des suggestions. Il prenait pas, il en prenait en moyenne, je crois, de mémoire 40%. Mais après, je me suis dit, mince, écrire, mais c'est génial. Et j'avais un projet depuis longtemps en tête. J'avais une esquisse qui est devenue réellement projet, qui est une pure fiction, hein, qui débute en l'an 1000. Ça, c'est le prologue. Et ensuite, on va revenir en France, à Alençon, dans les années 50. Voilà, il s'intitule « La malédiction des justes ». Voilà, « La malédiction des justes ». Donc, j'en suis déjà à une trentaine de pages. Et en fait, j'ai découvert une chose qui est incroyable lorsque l'on écrit. Un bon écrivain va faire en moyenne 1000 mots par jour. Hein, mais après, c'est une bonne journée derrière à tout reconstruire, à tout reprendre. Sans compter que d'ailleurs, derrière, il y a toujours des gens dans le cercle amical qui relisent, qui disent bah, « Tiens, t'aurais dû prendre ce mot-là, t'aurais peut-être dû faire ci, faire ça ». Là, maintenant, je m'engage dans ce travail. Non, c'est plus long. C'est plus difficile, mais c'est tellement passionnant.
Un mot à rajouter ?
J'espère que les lecteurs qui ont déjà acheté mon livre, il s'en est vendu entre 50 et 60, eh bien j'espère qu'ils ont pris plaisir à le lire, et si ce n'est pas le fait, eh bien peut-être qu'un jour ils le reliront et prendront plaisir à redécouvrir ce livre.
Alors Stéphane Giraud, je vous remercie et je vous félicite pour l'écriture de ce livre qui raconte votre vie, et je vous souhaite beaucoup de succès pour celui-ci. Je vous dis à bientôt pour parler du prochain livre.
Je vous remercie, puis avec grand plaisir, nous pourrons nous revoir pour la parution du prochain.
Au revoir.
Au revoir.